J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Et je vous remercie au cas d'engage. Je pense que en combinant les deux, c'est de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Ce mercredi 29 décembre 2010, nous restons avec vous dans l'actualité liée aux festivités marquant la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011. Pendant cette période, beaucoup de personnes, et surtout les jeunes, recourent à des substances enivrantes telles que l'alcool, la drogue, les valium et autres, ce qui les conduit souvent à des actes de banditisme et même à la mort. Comme ce dernier cas, un exemple au nord Katanga où la fête de Noël a tourné au drame dans la localité de Kongolo. D'après la radio communautaire RCKO Berdi, deux enfants âgés de 14 ans sont morts d'overdose le jour de la nativité au village Kéba. Ils venaient de consommer une espèce d'alcool indigène auquel ils ont ajouté des comprimés de valium et du jus de fruits. Leur enterrement est intervenu le dimanche dernier, rapporte la même source. À réaction à ces drames, le secrétaire de l'association des propriétaires des pharmacies a sur la même radio exhorté les membres de son association à ne délivrer les valium qui sont sur ordonnance médicale. Quel constat faites-vous chez vous pendant cette période en ce qui concerne la consommation de ces substances et qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre cela et éviter ces genres de drames pendant la période de fête? Soyez nombreux à réagir à l'adresse pa@radiokapi.net. Nous recevons dans ce studio M. Pini Mokier, il est le président de la commission de lutte contre la drogue et prévention des crimes. Je crois que je vais le bien présenter pour le dire lui-même. Tony Tumba et Mimi Kindou sont à la réalisation de cette émission et présentée par Pierrot et la Mégie. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h tard pour un échange autour de la consommation de la drogue et autres substances enivrantes pendant cette période de fin d'année et des mesures à prendre pour prévenir des violences qui peuvent survenir. Si vous avez besoin d'intervenir, appelez-nous au 081 890 69 69. Et je reprends le numéro. Appelez-nous au 081 890 69 69. Ne nous appelez pas au 6315. Je reprends bien le numéro. Au 081 890 69 69. Et si tu as accès à l'internet, tu peux également le faire en nous envoyant un mail à pa@radiookapi.net. Monsieur Pini Mokier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir au studio de Radio Capi. Je crois bien, je vous ai bien présenté. Vous dirigez la commission qui s'occupe de la lutte contre la drogue et prévention des crimes, c'est ça?
Oui, c'est un comité de lutte contre la drogue et les crimes.
Voilà. Et nous parlons exactement de cela aujourd'hui. Vous venez de suivre cet exemple au nord Katanga. En tant que responsable de cette structure, comment vous pouvez réagir d'emblée quand on vous informe qu'il y a deux enfants de 14 ans qui sont morts parce qu'ils ont consommé de l'alcool mélangé au valium, ils ont mis les jus de fruits et cela est survenu les jours de Noël? Comment on peut réagir d'emblée à une telle information?
Merci bien. Je crois que la réaction de tous parents doit être négative. Parce que pendant les grandes fêtes, nous, les parents, nous devons surveiller nos enfants. Et quand nous surveillons les enfants, nous devons voir qu'est-ce qu'ils prennent comme boisson. Vous savez qu'on peut tout dire, l'alcool est toujours une drogue. Même si les gens ne croient pas, mais nous avons toujours dit que l'alcool est une drogue légale. Mais dès que vous en abusez, vous attrapez les effets hallucinogènes, ce qu'on appelle en droit l'ivresse publique, à ce moment-là, ça devient pénal, on vous arrête. C'est pour dire que l'alcool est mauvais, ce n'est pas bien de prendre de la bière pendant les grandes fêtes. Alors, pour montrer réellement que l'alcool, la drogue, les substances toxiques sont mauvais, nous allons un peu définir la drogue. Qu'est-ce que nous appelons la drogue? C'est toute substance qui peut être en état naturel, comment Dieu a créé ça, ça peut être en état naturel, qui peut être en état synthétique, c'est-à-dire sous forme déjà de produits chimiques, et qui, une fois introduite dans le corps humain, va attaquer le système nerveux central. Et à ce moment-là, ça change le comportement de l'individu. Et quand vous en abusez, ça vous amène dans le coma et ça entraîne le mort, la mort, pardon. C'est le cas de ce que nous venons
de parler.
Voilà. Alors, je crois que nous devons faire un effort du côté de pharmacie. Parce que nous savons que dans notre pays, nous avons un problème très sérieux dans le domaine de pharmacie. Parce que nous constatons que très souvent, il suffit d'avoir l'argent, on va installer une pharmacie, on va l'exploiter. Non, ce n'est pas ça. Il faut être du domaine. Il faut être pharmacien pour gérer une pharmacie. Et il existe des textes et des règlements qui régissent, n'est-ce pas, l'installation et l'exploitation
des pharmacies.
Alors, il nous arrive très souvent, ça nous constatons cela, quelqu'un se présente devant un pharmacien et vous dites simplement, j'ai des maux de tête, est-ce que je peux avoir le comprimé de quinine? Et le pharmacien,
la personne qui vend, prend la quinine, le remet à la personne.
Il est mal intéressé. Non, ce n'est pas normal. Il faut lui exiger une prescription
médicale.
Nous appelons une ordonnance. Et à ce moment-là, nous allons voir est-ce que le médecin a prescrit 20 comprimés, 10 comprimés, et on peut alors à ce moment-là vendre le médicament à l'intéressé. Alors, une autre difficulté, c'est quoi? Quelqu'un qui arrive, même s'il a une prescription médicale, une ordonnance, il arrive chez le pharmacien, il dit je n'ai pas l'argent. Le médecin lui a prescrit, par exemple, 20 comprimés. Lui, il n'a pas l'argent, il voudra acheter un tiers du nombre de comprimés.
Voilà.
Alors, on lui vend ça. Il prend peut-être 6 comprimés. Mais dès qu'il termine les 6 comprimés, est-ce que c'est toute la dose?
Voilà.
Non.
Voilà le temps de problème.
Voilà le temps de problème.
Merci. Nous allons cheminer ensemble parce qu'il y a aussi les auditeurs qui sont en ligne, qui nous appellent de plusieurs villes de la RDC, qui pourront aussi contribuer. Surtout nous témoigner dans leur milieu ce qui se fait pour lutter contre ces pratiques et ce qu'eux aussi pensent faire dans leur milieu pour lutter contre ces pratiques. C'est comme Freddy qui est à Isiro et les autres auditeurs qui vont nous appeler. Je reprends nos numéros, le 081-890-6969 et nous allons cheminer ensemble avec eux jusqu'à la fin de l'émission.
Parole aux auditeurs.
Freddy, vous êtes en ligne à Isiro, Saint-Province orientale. Freddy, bonjour.
Oui, je suis à Isiro, dans la province orientale. Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi l'introduction de l'émission et oui, comme l'a expliqué...
J'ai une préoccupation à poser à notre invité.
Allez-y.
J'ai mon petit frère, il est mineur, il est à l'âge de 16 ans. Bon, il s'intéresse mieux à des toxicomanies là, des charges là. Si lui ne prend pas de charges, il va s'intéresser de prendre des médicaments pharmaceutiques là, des diazépam, des multivitamines. Toujours à partir de cela que si lui ne fait pas ça, bon, il s'arrive aussi à se retrouver sa vie. Pour lui, ça devient comme une maladie quelconque là, pour toujours faire mentalement comme ça. Donc, je ne sais pas si quelle attitude il faut afficher à partir de ce filage. Je ne sais pas si le vité peut nous donner quand même des éléments.
Voilà. Merci, Freddy. Vous êtes à Isiro. Mais avant de vous libérer, Freddy, mais est-ce que vous avez déjà essayé quoi pour l'aider à sortir de cette situation? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose pour lui?
Oui, oui, on a tout fait, il est quand même, ce qu'il a, il est quand même à l'aise chez lui. Bon, il n'y a rien de spécial qui peut aller, qui peut lui conduire et en faire du mal, mais lui s'intéresse à cela. Il est parmi d'autres mineurs qui s'intéressent à ce projet-là.
Ah, ça dit que s'il ne consomme pas, voilà. Merci, Freddy, vous êtes à Isiro, c'est en province orientale, M. Binimoke, vous avez suivi notre auditeur. Il a son petit frère, c'est un mineur, il a 16 ans, mais s'il ne consomme pas la drogue, hein, s'il ne prend pas, par exemple, comme les chanvres, les cannabis, comme on peut l'appeler, ou soit les médicaments comme des somnifères, s'il ne prend pas cela, il ne peut pas être à l'aise. Alors il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider.
Merci. Merci pour la question. Je vois vraiment qu'il est intéressé. Si cet enfant n'a pas encore atteint ce que nous appelons la dépendance, il doit l'amener devant un médecin. Parce que nous avons des spécialistes qui s'occupent de maladies mentales. Alors, il doit l'amener devant le médecin et le médecin lui dira ce qu'il doit faire. C'est la première chose. Deuxième chose, il doit voir aussi cet enfant-là. Il le fréquente qui? Les gens qui le fréquentent, il doit voir. Parce que s'il fréquente les consommateurs de drogue, les vendeurs de drogue, eh bien, ce serait difficile pour lui de s'en passer. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Parce que nous savons que l'oisivité aussi pousse l'individu, la personne, n'est-ce pas, à aller s'allier avec ceux qui consomment de la drogue. Donc je crois que l'effort doit commencer d'abord par lui-même, amener l'enfant chez le médecin, qui est psychiatre, qui est spécialiste en santé mentale, pas n'importe quel médecin. Et deuxièmement, il doit voir cet enfant fréquenter qui, avec qui il collabore, et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Donc, il doit avoir tout ça. Il y a beaucoup d'éléments
qui interviennent dans ce cas. Mais est-ce qu'au niveau du comité des préventions de lutte contre la drogue et les crimes, vous avez aussi un service comme ça pour aider les gens qui peuvent venir vous consulter, ou quand quelqu'un est déjà dépendant, est-ce que vous avez aussi des structures qui aident à encadrer les gens, à les réinsérer socialement, à les désintoxiquer par exemple?
Oui, pour le moment, nous avons le médecin. Nous sommes en collaboration avec le médecin qui travaille au CNPP, qui sont des spécialistes en santé mentale. Il n'y a pas de secret, je peux citer les noms, comme le docteur Mouteba,
voilà, c'est bon.
Le docteur Moussa, ce sont des spécialistes en santé mentale. Nous avons aussi un centre de désintoxication, c'est le docteur Mifoulou Abraham, il a un centre aussi. Donc, si nous avons des gens qui sont déjà dépendants, eh bien, ils peuvent nous consulter, nous allons les diriger vers ces médecins qui sont des spécialistes.
Voilà. Est-ce que, Freddy, vous êtes encore en ligne à Isiro, vous êtes en ligne? Freddy, vous êtes encore en ligne? Voilà, ok, Freddy n'est plus en ligne, mais du moins, il a eu la réponse à sa préoccupation. Pour les autres auditeurs qui ont besoin d'intervenir dans cette émission, peut également nous appeler au 081-890-6315.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-67-800 par internet et @radiookapi.net.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la consommation des substances enivrantes et autres substances autres comme drogue pendant la période des fêtes, pour éviter les conséquences que cela conduit? C'est ce qui fait l'objet des paroles aux auditeurs de ces mercredis. Quelles sont les mesures particulières qu'il faut prendre? Nous en parlons. Monsieur Pilimoquier, vous dirigez le comité de lutte contre la drogue et les crimes. Est-ce que pendant la période des fêtes comme ça, vous avez, vous, des mesures particulière que vous prenez pour encadrer les uns et les autres pendant cette période, comme nous venons d'évoquer le méfait de ces substances? Est-ce que vous avez des mesures particulières que vous prenez pendant cette période?
Merci bien. Je crois que ces mesures-là concernent tout le monde. Les parents, l'État et l'individu lui-même. En ce qui concerne les parents, Moi, je crois que nous devons, nous les parents, parce que je suis parent, nous devons surveiller les enfants pendant les grandes fêtes. Il faut savoir l'enfant est allé où, où est-ce qu'il est allé fêter. Et en plus de cela, avant d'aller dormir, vous devez savoir, je vais dormir où se trouve mon enfant, où se trouvent mes enfants.
Mmh.
On ne doit pas aller dormir comme ça, on ne sait pas là où sont les enfants. Et puis, ces enfants reviennent parfois à 6 heures du matin. Ils étaient où? Donc tout cela, il faut que le parent puisse être vigilant. Et nous avons constaté également que pendant ces fêtes, ces enfants qui veulent exagérer, abuser de l'alcool,
mmh.
parfois, une fois devenus ivres, eh bien, ils commettent des infractions, telles que les injures publiques,
mmh.
Le coup et blessure volontaire, et pour les jeunes filles, elles vont se prostituer. Donc, vous voyez que tout cela, c'est le parent qui doit, n'est-ce pas, surveiller.
Mmh.
Alors, en ce qui concerne l'État, je crois qu'il faut renforcer les patrouilles. Vous savez que la présence d'un policier en tenue suffit pour faire
pour dissuader
les criminels.
Mmh.
Il suffit que des jeeps de la police passent régulièrement dans les quartiers. Vous allez voir que les enfants vont se comporter dignement. Je crois que ce côté-là, l'État peut faire quelque chose,
mmh.
multiplier de patrouilles. Et également, les enfants eux-mêmes doivent se contrôler. S'ils sont déjà à l'âge adulte, ils doivent se contrôler. Mais pour les enfants à bas âge, là, c'est les parents. C'est pourquoi je dis les mesures de sécurité concernent nous, les parents, l'État et l'enfant lui-même.
Vous
savez, la sécurité commence par soi-même.
Voilà. Mais on a vu dans beaucoup de villes comme ici à Kinshasa, les autorités interdire, par exemple, la commercialisation de whisky. On a parlé de whisky en sachet, on a vu ça aussi au Nord Kivu. Dans beaucoup de provinces, les autorités ont interdit la vente de ces produits-là pour les mineurs, pour les jeunes gens, pour les enfants, par exemple. Mais plusieurs fois, et comme à Kinshasa, on a interdit en sachet, mais on le voit des fois revenir dans les petits flacons, mais au prix aussi accessible à 100 francs, c'est qu'un enfant peut acheter, ou 200 francs. Mais à qui revient aussi la responsabilité de contrôle et d'application de ces mesures, hein, que les autorités municipales prennent, qui peut en principe agir sur le terrain pour faire appliquer ces mesures et éviter quand même qu'on retrouve ces substances entre les mains de mineurs.
Merci bien. Vous savez que il y a la loi sur la flagrance qui autorise tout individu à arrêter celui qui commet l'infraction ou celui qui est en train de commettre l'infraction et de l'amener devant l'autorité compétente.
Okay.
C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'État, tout individu, en cas de flagrance, est autorisé à arrêter l'individu et l'amener devant l'autorité compétente.
Voilà.
Alors, en ce qui concerne le whisky en sachet ou le whisky en bouteille, il y a une loi dans notre pays,
mm-hmm.
en République démocratique du Congo, qui interdit la fabrication de whisky dépassant 45 degrés.
Mm-hmm.
Or, si l'OCC, qui est l'organe de contrôle, vous donne le bulletin d'analyse pour dire, voilà, votre whisky est de 40 ou 30 degrés, et que quand vous venez, vous rentrez à l'usine, vous allez fabriquer, vous dépassez 45 degrés.
Mm-hmm.
En ce moment-là, vous êtes en infraction.
Voilà.
Et puis, quand les gens vont consommer ce whisky, eh bien, ils vont se faire détruire.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, au lieu peut-être de vendre cet alcool, ce whisky, eh bien, l'État sera obligé de le saisir parce que vous avez violé la loi.
Mm-hmm.
Alors, je crois que ce qu'il faut faire pour la population, il faut dénoncer. Parce que parfois le peuple congolais a peur de dénoncer. Il faut dénoncer ceux qui sont en train de fabriquer ce whisky de plus de 45 degrés, ce n'est pas moins de 45 degrés.
Mm-hmm.
Et puis, les enfants qui consomment, parce qu'il y en a qui font parfois des bars, ils font semblant de vendre la bière normale,
mm-hmm.
mais alors que à l'intérieur, c'est le mélange de whisky, de cannabis, parfois de produits, les psychotropes, tels que le Valium, ainsi de suite. Je crois que nous tous, nous devons vigiler l'État, comme je l'avais dit, l'État, le gouvernement, parce que la loi, c'est la flagrance, nous donne aussi ce pouvoir-là d'arrêter.
Voilà, nous nous regardons. Il y a, je crois peut-être que les auditeurs ont des problèmes sur notre ligne téléphonique, hein, mais nous rappelons la ligne par laquelle vous pouvez nous joindre et intervenir. C'est clé au 081-890-6969, je reprends. 081-890-6969, si vous avez besoin d'intervenir pour nous donner votre point de vue dans cette émission. Nous cheminons ensemble sur les mesures qu'il faut prendre pour encadrer la jeunesse pendant cette période et éviter la consommation des substances enivrantes, la drogue et autres. Appelez-nous au 081-890-6969.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, dans le Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur le sujet du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, dans le Kinshasa.
Cela est arrivé, c'était le samedi de Noël, nous en avons évoqué à l'introduction de cette émission, dans la localité des Congolos au nord Katanga. La radio locale RCKO, Berdi, a délivré cette information qui a fait état de deux enfants âgés de 14 ans qui sont morts d'overdose le jour de nativité, comme je le disais, au village Keba. Ils venaient de consommer une espèce d'alcool local mélangé au comprimé de Valium et le jus de fruits, et ils ont été enterrés le dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de drame dans votre milieu? Appelez-nous au 081-890-6315. Monsieur Pinimouki, plusieurs fois on voit entre les mouvements des populations, c'est-à-dire que les gens qui font les commerces, par exemple des maniocs, des maïs, des haricots, qui avec les vélos, qui vont par exemple des Luis au Kasai Occidental vers Kananga, qui vont de Kolwezi vers Likasi, des Likasi qui traversent ainsi les frontières. Plusieurs fois ils ont été accusés de transporter le cannabis dans leurs colis. Est-ce qu'actuellement au niveau de la commission, vous avez des méthodes de détection, par exemple, de cannabis pour savoir que cela est cultivé dans telle province, en face par telle localité? Est-ce qu'il y a des agents qui contrôlent, qui peuvent détecter facilement ces genres de substances si jamais c'est transporté par les uns et les autres dans leur mouvement entre les provinces?
Merci bien. Il y a des études qui ont été déjà faites dans ce que nous appelons le modus operandi. C'est-à-dire toutes les façons d'opérer de trafiquants de drogue, nous les connaissons. Mais seulement, nous ne pouvons pas les dévoiler ici à la radio. Mais nous savons, même si vous venez avec un sac de manioc ou de maïs, si à l'intérieur vous avez mis du cannabis, et que nous savons qu'il y a du cannabis à l'intérieur. Avant que je puisse continuer avec votre question, je voudrais dire ceci. Le produit que nous appelons en lingala, lotoko, l'alcool indigène, le lotoko est un produit toxique. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent fabriquer ce lotoko et le vendre. Ils sont en infraction parce que le lotoko est un produit toxique. Il y a des lois qui interdisent ça. Comme ça, je sais pas. Alors, s'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent fabriquer et consommer de la drogue, ils seront arrêtés. D'ailleurs, on a déjà arrêté souvent tous ces gens qui fabriquent ce chocolat. Et nous demandons à la population de dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de l'engana uniquement pour vendre le toco,
oui,
mélangé avec le cannabis.
Et là, c'est des usines de fabrication qui sont juste à la lisière. Vous voyez, quand on termine un quartier en descendant vers, c'est pas la rivière, on a des petites usines de toco comme ça dans beaucoup de.
Ah, voilà. De nous quartiers. Voulons qu'on dénonce, mm-hmm, on donne l'adresse. On n'a pas besoin du nom, on n'a pas besoin de connaître le nom de celui qui va dénoncer. Non, vous dénoncez, vous nous donnez l'adresse, l'endroit où ces gens consomment. Je crois que, d'une façon générale, nous avons le service, parce que le comité est interministériel.
Mm-hmm.
Nous avons le service qui sont à la frontière. Nous avons le FIDA, qui est membre du comité, qui est à la frontière. Nous avons la police nationale congolaise,
mm-hmm,
qui est membre du comité, qui sont dans la police de frontière. Nous avons également le service spécialisé, tel que la NERBGM, mm-hmm, qui font aussi partie du comité. Je crois que ce sont ces services-là qui doivent opérer dans les frontières et arrêter ces gens, nous transmettre, n'est-ce pas, le statistique.
Mm-hmm.
Mais nous savons que tout le monde opérant, utilisé par les trafiquants de drogue, nous le connaissons. Parce que chaque fois, quand vous les arrêtez, par exemple, avec le cannabis qui est mis dans le sac de maïs,
mm-hmm,
prochainement, ce ne sera pas comme ça. Peut-être que ça sera dans un tonneau où on met de l'huile à l'intérieur, de l'huile de palme à l'intérieur,
oui,
on met de la drogue. Donc, tout ce monde où s'opérant sont connus,
voilà,
par les spécialistes du comité interministériel de lutte contre la drogue.
D'où vous êtes à Baraka, dans la province de Sud-Kivu, nous allons vous donner la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Doumé, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à l'invité.
Voilà, vous êtes à Baraka, aussi qui vous, pendant cette période des fêtes, vous avez suivi bien, vous avez eu le temps vraiment de suivre, hein, l'invité a pu expliquer en long et en large. Décrivez-nous un peu comment vous vivez cette situation de la consommation de ces substances à Baraka, aussi qui vous.
Donc ça va, vous savez que durant les grandes fêtes comme ça, bon, la jeunesse, souvent se dérange, je le dirais.
Mmh.
Parce que c'est une monnaie courante auprès de la jeunesse quand il y a des fêtes. Bon, la jeunesse a toujours l'habitude de prendre la drogue.
Mmh.
Et cela est observé même dans notre milieu. Alors moi j'avais à proposer comme solution dans l'émission.
Allez-y rapidement.
Toutes les interventions de l'invité sont tout à fait fondées, ce qu'il a donné comme prévention.
Mm-hmm.
Mais comme il joue, moi je sais que la jeunesse que nous sommes chrétiens dans telle ou telle autre église, plus ce n'est pas catholique, doit être protestant, musulman, je ne sais pas. Alors, pour combattre, bon, qu'il n'y ait pas assez de dégâts, que la jeunesse ne se met pas à la drogue, je dirais aux prêtres, je ne sais pas, aux pasteurs de différentes églises,
mm-hmm,
de pouvoir organiser toujours des messes pour encadrer cette jeunesse qui se livre aux drogues, en oubliant que la drogue n'est pas tout à fait meilleure.
Mm.
C'est juste à mon intervention.
Ok, et d'où, mais si on peut vous garder en ligne, ça c'est d'une manière générale, hein, vous exhortez les responsables, les religieux, de mettre aussi plus de temps, hein, pour encadrer les jeunes. Mais est-ce que sur place à Baraka, vous avez quand même des mesures qui sont prises actuellement pour protéger les jeunes ou sauf la population contre ces substances pendant ces périodes de fête?
Oui, tout à fait. Bon, les mesures sont prises dans. Comme nous sommes. Nous vivons dans une association, bon, des jeunes.
Mm-hmm.
Notre association, bon, s'appelle ILPOA. Bon, après le 25 décembre, parce que vous savez qu'il y a eu assez de dégâts au niveau de notre milieu.
Mm-hmm.
Il y a eu assez de dégâts, bon. Comme il n'y avait pas aucune mesure qui était déjà prise durant le moment, alors nous sommes organisés comme ça, nous préparons et nous sensibilisons toujours la jeunesse de ne pas prendre la drogue au sein de notre association.
Merci beaucoup, Théophile. Merci beaucoup, Doumé, pour cette initiative. Hein. Mais vous avez interpellé le responsable religieux, le pasteur, les prêtres, tous ceux qui ont l'occasion de côtoyer les jeunes, de pouvoir organiser aussi beaucoup d'enseignements et de sensibilisation, et aussi que vous faites déjà dans votre association à Baraka. Aussi, je vous remercie de nous avoir appelé au centre du pays. C'est Théophile qui nous appelle de Kananga. Théophile, vous êtes en ligne, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, le auditeur de la radio Kapi.
On vous écoute, Théophile. Vous avez suivi ce que notre ami Doumé de Baraka vient de dire, hein, ce qui se fait dans son milieu. Décrivez-nous un peu l'ambiance à Kananga. Est-ce que les jeunes, pendant les jours de la nativité, pendant tout ce temps qui précède aussi la fête de début d'année, est-ce que les jeunes recourent à des substances comme on l'a décrit dans cette émission?
Effectivement, les jeunes de partout ailleurs ont presque la même pratique.
Mmh.
Et cette pratique, pour nous, nous trouvons qu'elle est plutôt accentuée. D'abord par manque de l'éducation.
Mmh.
Vous voyez, quand il n'y a pas d'éducation, l'éducation qui d'ailleurs constitue le moteur du développement, quand il fait défaut, alors le reste est nul.
Mmh.
Nous prenons le parent qu'on a essayé de responsabiliser par notre intervenant sur le plateau.
Mmh.
Le parent qui, au départ, sont affamés. Ils n'ont pas le temps de rester avec les enfants.
Mmh.
Il peut y avoir un matin, le père se réveille, il est à la chasse de ce que nous appelons vulgairement ici tandeketi ou bien une mesurette de maïs, et la maman est au marché. Vous voyez que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes.
Mmh.
Et quand ils arrivent déjà fatigués, ils doivent se préoccuper, ne fût-ce que pour nourrir ses enfants, mmh, avec le minimum qu'ils ont chassé par jour.
Mmh.
Vous voyez, maintenant, ces enfants ne sont pas éduqués, et comme nous abordons ce sujet, je trouve qu'il est vraiment sensible et très complexe.
Mmh.
Par exemple, ils boivent aujourd'hui, quand nous les ciblons pour ces fêtes, ils n'ont pas commencé à boire seulement à partir de ces anniversaires.
Mmh.
Ils boivent de tous les jours. Et maintenant, quand on parle de fêtes de fin d'année, ce n'est qu'une manifestation de leur boisson d'une manière publique ou de leur drogue d'une manière publique.
Mmh.
Et d'autant plus, à l'école où ces enfants devraient avoir l'encadrement, il n'y a pas la morale. L'incivisme bat record. Tout ce que ces enfants consomment, c'est ce que les professeurs consomment. Et au contraire, par contre, les enfants, les professeurs peuvent demander à l'enfant, amenez-moi telle drogue, amenez-moi ceci, cela. Et ça s'est fait. Et quand nous prolongeons, même au niveau de la police, comme le sergent, qui l'invitait tout à l'heure a dit qu'il faut qu'on voit la voiture ou le véhicule de la police, les gens doivent paniquer. Ils ne paniquent pas, ils savent qu'ils sont clients de la police. Quand un policier arrête un enfant avec des drogues, la première action est d'en détrousser et en utiliser aussi. Vous voyez que ici, monsieur Pierrot, comme nous disons que c'est un sujet complexe,
mm-hmm,
et qui n'a que son prolongement dans la société, il faut que l'État prenne en charge les parents que nous sommes.
Mm-hmm.
Et si nous sommes encadrés par l'État, nous allons aussi encadrer nos enfants par l'éducation, et nos professeurs, les enseignants vont, mmh, encadrer les enfants à l'école, et ce système va s'effacer de soi-même.
Merci beaucoup, Théophile. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental, où les auditeurs nous écoutent sur 93 MHz. Merci de toutes ces propositions. Et pour l'un, vous allez garder la ligne. Vous êtes à ici, en province orientale, parce que nous allons revenir au studio avec M. Pini Mokier. Monsieur Pini, vous venez de suivre les deux auditeurs, Doumé de Baraka et Théophile de Kananga. Ils posent, si je résume leurs préoccupations, moi je me dis tout à l'heure qu'ils se posent un problème du travail aussi en amont. Cela dit que le travail de la sensibilisation, la responsabilité que nous avons pour la sensibilisation de la jeunesse. Et en revenant dans votre structure, dans votre comité, hormis le fait d'arrêter les gens qui fabriquent, ceux qui commercialisent, ceux qui en abusent, est-ce qu'il y a aussi souvent un travail en amont, comme les auditeurs l'ont dit? D'abord, au-dessus, c'est la sensibilisation des uns et des autres avant de passer aux mesures d'arrestation. Parce que, bien sûr, aussi longtemps qu'il y aura des consommateurs, il y aura toujours ceux qui vont fabriquer. Mais est-ce qu'il y a aussi un travail qui se fait en amont pour lutter contre la consommation, les sensibilisations?
Merci, monsieur le journaliste. Dans ce que nous faisons, le comité interministériel de lutte contre la drogue et les crimes organisés travaille en collaboration au niveau de l'Afrique, au niveau de la journée avec la SADC et au niveau des Nations Unies avec ONUDC, c'est-à-dire Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Alors, l'ONUDC nous a donné des stratégies. Comment lutter contre la drogue. Et ces stratégies sont pour tous les pays du monde. Pour revenir à votre question, la première stratégie de lutte contre la drogue, c'est la prévention, la sensibilisation. C'est pourquoi je remercie la radio Okapi. Parce que elle nous a donné l'occasion au moins de parler. C'est-à-dire que nous devons faire beaucoup de sensibilisation. Vous savez, pour ceux qui lisent la Bible dans Osée, on dit que mon peuple meurt faute de
connaissances.
De connaissance. Donc, quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas faire quelque chose. Donc, la sensibilisation, l'organisation de conférences et débats, l'organisation de conférences, les émissions à la radio, à la télévision, sont très importantes pour sensibiliser. Parce que quand quelqu'un sait que quand je prends de la drogue, je vais attraper par exemple la tuberculose, ou j'aurai un vieillissement précoce. Vous avez 30 ans, mais excellemment vous présentez une figure de 50 ans. Dans ce moment-là, on va dire non, je ne prends pas cela. Donc la prévention, effectivement, est très importante. Nous le faisons, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens. Parce que pour aller à la télévision, on vous demande de faire. Vous n'allez pas parler comme ça. Donc, effectivement, nous faisons la prévention. Alors, la répression, c'est surtout deuxième stratégie. Il faut réprimer ceux qui violent la loi. Surtout les trafiquants, les vendeurs, les consommateurs doivent être arrêtés. Ça, c'est la deuxième stratégie.
Voilà.
Alors, la troisième stratégie, vous savez qu'un toxicomane, c'est un malade mental. Quelqu'un qui est déjà un toxicomane, quelqu'un qui est déjà un drogué, on ne peut plus l'arrêter, parce que mentalement il est malade, il faut le traiter. Alors la troisième étape, c'est ce que nous appelons la désintoxication.
Voilà.
Alors la dernière étape, c'est quoi? Cet homme-là qui était toxicomane, il nous faut revenir à la raison, à la vie normale, il faut le faire occuper. Ça, c'est la prise en charge. Parce que si vous le laissez, il ne fait rien, malgré qu'il est déjà désintoxiqué, il a repris la vie normale, allez, il va réchuter. Voilà les quatre stratégies exigées par l'ONUDC qui nous permettent, n'est-ce pas, de travailler.
Voilà.
Sinon, nous faisons réellement la prévention qui est vraiment très très importante.
Paulin est à Isiro, Joël est à Kipushi au Katanga, Peter est à Bouni en province orientale. Nous allons vous donner la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Paulin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de suivre tout ce qui a été décrit dans cette émission. Au niveau de d'Isiro, par exemple, Paulin, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, dans les milieux où vous vivez, pour aider la population, pour aider les jeunes à consommer la drogue et éviter tous ces drames évoqués dans cette émission?
Ok, merci de m'accorder la parole. Mais être les jeunes, ce n'est pas des choses de bêtises. Si tu vois une école de terre ou de serre, quitte la maison et combatte. Il va revenir le soir à sa domicile. C'est pour ça que les parents ne comprennent même pas. S'il va quitter la maison pendant la semaine, il y a déjà allé les fautes de faire n'importe quoi, de briguer, de faire n'importe quoi, quand il est dans la maison, c'est pas de ce que moi je demande. les gouvernements congolais soutenir nos parents pour éviter ce problème. Parce qu'il y a des gens qui ont des drogues et passer par là, c'est pour cela. C'est pour abîmer notre vie de demain. Nous voyons que nous sommes les jeunes qui sommes les amis de demain. C'est pour cela que nous les contrôlons. Les jeunes gens d'ici ne s'habituent même pas de se droguer ou de déboire. C'est que les constats qu'ils avaient fait ici dans notre ville.
Voilà, et pour l'heure, vous avez constaté que les jeunes gens du Siro ne s'adonnent pas à la consommation de drogues ni de l'alcool. Merci, mais vous interpellez l'État pour prendre en charge les parents. Vous avez raison, au fil des grands qui pensent que si la condition, les conditions de vie des parents sont aussi améliorées, ils peuvent avoir assez de temps pour s'occuper des enfants. Sinon, aujourd'hui, avec la situation difficile que connaissent beaucoup de parents, ils sortent du matin au soir et ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Merci, pour l'heure, vous êtes à Isiro. En province orientale, je crois que les auditeurs nous suivent sur 90.1 MHz. Nous allons au Katanga à Kipushi. Joël, vous gardez la ligne, Joël, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
Merci de nous avoir appelés pour contribuer à cette émission autour de ce que nous devons faire pour aider la jeunesse pendant cette période. On vous écoute, Joël.
Oui, M. Perrault, merci pour la parole. Et c'est aussi bien de se réjouir pendant la période des festivités de fin d'année des Solans. Mais ce que nous regrettons, c'est que les enfants, les jeunes gens se comportent très mal. En prenant, par exemple, du change, de la drogue, ce n'est pas sérieux. Car après la fête, on vous refait, M. Piro, même s'il faut boire, s'il faut se réjouir, il faut prendre un verre, mais pas un verre de trop. Et je pense que ce premier jour de l'année 2010 est un moment de méditation pour voir comment démarrer la nouvelle année. Il va commencer, au lieu de s'enivrer tout au long des journées en faisant des troubles publics à gauche, à droite, et à risque même de se réfugier aux arrêts.
Mais est-ce que quand vous avez regardé la situation à Kipushi après le 25 décembre, vous avez connu des débordements comme ça? Vous avez noté ça dans la société?
Oui, effectivement, les gens nous buvent de n'importe quoi et de n'importe comment. Et en fin de compte, ils se mettent à trouver de l'ordre public. Vous voyez que ce n'est pas correct, M. Piro.
Et vous interpellez la jeunesse à plus méditer. Le 1er janvier 2011, c'est un jour de méditation plutôt que faire n'importe quoi. Merci, Joël. Joël, dites-nous à Kipushi comment vous écoutez Radio Papier à Kipushi.
Oui, je pense que nous vous captons sur la fréquence de Lubumbashi, c'est-à-dire que 95 MHz, quelque chose comme ça.
Lubumbashi, c'est vrai, oui, c'est 95.8 MHz. Alors, oui. Kipushi et Lubumbashi, c'est pas tellement loin, c'est ça?
Oui, non, c'est à 30 km ce qui se passe sur toutes les chaînes de Lubumbashi, les cartons, avec moins de peine.
Merci beaucoup, Joël. De Kipushi, c'est à environ 30 km, je crois bien, de Lubumbashi. Merci. Vous écoutez Radio Capi sur 95.8 MHz. À Bounia, c'est Peter qui est en ligne. Bonjour, Peter.
Bonjour, Romain.
Merci. On parle de la drogue, on parle de l'alcool, on parle de toutes ces substances qui consomment les jeunes, ce qu'il faut faire pour éviter cela et les prévenir pendant cette période de fête. Parlez-nous un peu de l'ambiance à Bounia, les jours de Noël, et ce que les jeunes préparent pour le jour de Nouvel An, et ce que vous pensez qui peut être fait pour aider la jeunesse et surtout éviter les débordements, les cas de mort, d'intoxication, comme on l'a vu ailleurs, ce qui est arrivé par exemple en Nord-Katanga, Peter.
Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est une émission qui a vraiment sa place sur cette période que nous sommes. Vous savez, monsieur le journaliste Thiro, ici à Bounia, avec la fête de Noël, que nous avons un alcool qu'on appelle le Simandro. Parce que par là, vous trouverez des petits bars qu'on appelle Mandro Bar. C'est grave ici à Bounia. C'est grave, monsieur le monsieur Thiro, c'est ce que je vous dis. Il y a ce qu'on appelle l'alcool localement qu'on appelle Kaiko. Donc c'est grave. Ce sont des jeunes qui les prennent en désordre et il y a du désordre et des arrestations chaque jour encore des routes.
Et Peter, si je peux aider-nous à comprendre, les mangos, c'est fabriqué où, localement à Bounia ou c'est importé ou en fait ça vient de quelque part?
Vraiment, vous savez que Bounia, ici, c'est comme une carrière. Donc, il y a les mantobas d'abord qui se fabriquent sur place ici à Bounia. Donc, c'est des mélanges là que nos frères aiment en charge de faire leur mélange. Et ça se voit, même les enfants de 3, 4 ans les voient. Et vous trouverez dans une maison, et les parents, et les enfants, tous sont ivres de ce mandro. Allô?
Oui.
Ça se consomme comme la nourriture. Ils disent que c'est la nourriture, mais ça enivre, c'est comme. Et à Bukavu, là, je ne sais pas, L'alcool là qu'on fabrique avec les bananes plantées.
Mmh.
Vraiment, c'est grave ici à Bouillon.
Alors,
il faut vous rappeler.
Oui, Peter, on décrit la situation, c'est-à-dire que les gens se sont déjà habitués à prendre ça même en famille, les parents le prennent pendant qu'ils mangent avec, ils sont à table avec les enfants. Mais quelles sont les mesures qui sont prises pour lutter contre cela à Bounia? Est-ce qu'on abandonne la population, continue à consommer? Il y a aucune mesure prise même par les autorités locales, même les structures quelconques qui se mettent à sensibiliser, à lutter contre la consommation de cet alcool, Peter?
Il y a des structures qui sont là pour sensibiliser, par exemple, l'Orchestre pour le sauvetage des vulnérables, ils sont là pour sensibiliser. Mais je vous dis, il n'y a pas vraiment d'impact sur le terrain.
Mm-hmm.
J'ai quand même donné un cas, si vous demandez mon ami Charles de GFO, un jour nous étions dans un chantier, j'avais des gaillards qui dégageaient des briques. Mais ces deux gaillards-là, ils ont dit, viens, nous ne pouvons pas terminer à dégager ces briques sans prendre de chambre.
Mm-hmm.
Alors nous pouvons aller chercher ça quelque part ici. Ils sont partis. Moi, je les ai vus, là, ils sont partis acheter des chambres dans un policier,
mm-hmm.
s'il vous plaît. Un policier, un officier, là, qui vous va des chambres et qui va aux jeunes garçons. Est-ce qu'il y a encore qu'on peut recourir? Est-ce qu'il y a la police qu'il faut recourir pour que ne puissent pas des mesures nécessaires afin d'arriver avec ces situations?
Merci, Peter. Vraiment, ça, c'est grave. Si c'est auprès des agents de l'ordre que les gens sont allés se ravitailler, si ça se fait comme ça, peut-être ailleurs, dans d'autres villes, je crois bien que c'est vraiment sérieux. Merci quand même de ce témoignage. Vous êtes à Bounia, c'est en province orientale, sur 104.9, où les auditeurs écoutent Radio Capi. Il y a Viviane qui nous appelle Bessicuit et Christian qui est à Coindroman. Nous vous gardons en ligne. Nous donnons la parole à M. Pilimo qui est juste pour 2 minutes, le temps qu'il réagisse à ce propos des auditeurs. Et on va vous redonner la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Pilimo, on entend vers la fin de la première partie. Il y a 2 auditeurs qui sont en ligne, mais il y a Paulin Bissiro qui a parlé, il y a Joël Béquip aussi et Peter de Bounia. Si vous pouvez résumer leurs propos et l'inquiétude de notre ami qui dit qu'il a vu quand même que c'est un agent de l'ordre qu'on y vend du chanvre, ce que vous pouvez leur dire dans 2 minutes, nous allons donner la parole aux 2 auditeurs qui sont en ligne.
Merci pour notre ami. Je voudrais simplement dire ceci. Un agent de l'ordre, il n'est pas né agent de l'ordre, il est devenu agent de l'ordre.
Mm-hmm.
Donc, il ne faut pas qu'on puisse se décourager parce qu'il y a un agent de l'ordre qui consomme ou qui protège les toxicomanes.
Mm-hmm.
Et il y a la justice militaire qui existe. Si on a des preuves que c'est un agent de l'ordre qui consomme ou qui vend ou qui protège,
il faut les dénoncer.
Il faut les dénoncer, il faut les dénoncer à la justice militaire. Donc, il ne faut pas que cela nous décourage. C'est comme quelqu'un qui dit que le pasteur, par exemple, a volé. Alors, à ce moment-là, moi, je suis...
Je ne parle pas à l'église.
Non. Donc, cela ne doit pas nous décourager.
Mm-hmm.
Mais ce que nous devons savoir également aussi, c'est que la santé, quand nous parlons de la drogue, nous parlons aussi de la santé.
Mmh.
Alors, la santé de quelqu'un, n'est-ce pas, doit aller ensemble avec son esprit.
Mmh.
Quand un corps est sain, l'esprit aussi est sain.
Mmh.
C'est comme ça on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ce qui fait que le combat doit être mené de 2 façons. Nous luttons contre tout ce qui peut donner la santé de l'individu.
Mm-hmm.
Et ce que notre intervenant, notre pardon, auditeur avait dit sur l'intervention des hommes spirituels, des prêtres, des pasteurs, c'est aussi important. Parce qu'on n'a jamais vu un toxicomane entrer dans une église, aller prier. Ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Donc, cette lutte que nous sommes en train de mener doit être menée aussi par les hommes de Dieu. Ceci, c'est très important.
Voilà. Permettons à Viviane, qui nous appelle de Tepuit, c'est une première dame qui est intervenue dans cette émission depuis le début. Madame Viviane, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous êtes à Tepuit dans le Bandundu. Quelle est votre contribution dans cette émission? Vous avez suivi comment on a interpellé les parents, l'État, pour aider la jeunesse pendant cette période. On vous écoute, madame.
Ok, merci, monsieur. Ma contribution est que je voudrais que l'implication des parents d'abord, parce que la responsabilité incombe aux parents.
Mmh.
Nous ne pouvons pas toujours voir la fête et voir d'abord ce qui se passe dans notre société.
Mmh.
Que ce soit au deuil, que ce soit dans des manifestations, nous voyons les gens, les jeunes gens en train de se droguer. Et ces jeunes gens doivent comprendre qu'ils sont la force vive de la nation, qui est l'espoir de demain de ce pays.
Mmh.
Et la responsabilité incombe aux parents. Ils doivent d'abord éduquer les enfants dès le plus jeune âge.
Mmh.
Et quand on éduque l'enfant comme ça, vieillissant, l'enfant ne va pas se dérober. Et aussi, il y a la responsabilité des écoles.
Mmh.
Les écoles aussi ont une part de responsabilité et l'État aussi. C'est-à-dire que nous devons sensibiliser, nous devons éduquer et l'État doit faire des mesures de suivi pour sanctionner les enfants qui veulent bien faire des histoires pareilles. Comme l'a dit un certain auditeur qui l'a vu un militaire ou un policier. C'est vrai. Quand vous êtes censé être un modèle, vous ne devez pas vous en abuser parce qu'il y aura toute une suite de personnes derrière vous. Comment voulez-vous qu'un policier qui est censé de surveiller, sécuriser la population, en train de prendre du chanvre et le vendre chez lui, au vu aussi de tout le monde? Ce sont de mauvais exemples, bien sûr, ils ne sont pas des parfaits, mais ils doivent quand même savoir que plus qu'ils sont des agents de l'ordre, ce service doit influencer aussi leur comportement vis-à-vis de la population. Parce qu'il y va la drogue, et c'est cet enfant-là qui va aussi les taquiner ou qui va se dresser contre lui. Alors, la fin, c'est quoi? Donc, pour moi, je voudrais qu'en tant que parents, nous puissions prendre nos responsabilités, que c'est nous qui avons demandé la venue de ces enfants au monde, et nous sommes les premiers responsables dans l'éducation de ces enfants.
Ouais.
Aux écoles que nous confions les enfants et à l'État, nous tous, nous sommes dans un grand cas du mal. Nous devons conjuguer des efforts pour aider cette jeunesse en fait de se débarrasser. Parce qu'un corps sain peut favoriser à une bonne instruction, à une bonne scolarité, et demain, il sera un monsieur respectable dans la société et qui pourra aussi avoir des égards lorsqu'il a la direction de ce pays où il est à la tête d'une institution, le monsieur aura un bon comportement.
Voilà.
Mais quelqu'un qui a une tête malade, une tête déjà droguée, même s'il a une bonne connaissance, mais ça sera un très mauvais dirigeant. Alors nous, en tant que parents, l'État et les institutions qui ont l'éducation, et ajouter à ça aussi la religion qui a une grande part dans l'éducation de la masse, nous devons conjuguer des efforts ensemble pour que ces pays demain nous puissions vraiment avoir l'espoir de notre jeunesse.
Merci beaucoup, madame. On sent que c'est le cœur d'une femme qui a parlé. Vous avez épinglé la responsabilité des parents, l'école, les agents de l'ordre qui sont considérés comme des modèles dans la société, ou aussi la religion qui a une grande responsabilité sur l'éducation des masses. Nous avons Christian, on te donne la parole, mais Dieudonné, nous te gardons en ligne le temps que nous puissions revenir en deuxième partie avec notre invité. Christian, vous êtes à Condroma. Nous vous disons, Christian, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Condroma, c'est dans la province orientale. Vous avez suivi madame Viviane Dekikuit, comment elle a dû interpeller les uns et les autres sur la responsabilité qu'il faut prendre pour aider la jeunesse. On vous écoute, Christian.
Vraiment, journaliste, il est vrai que les parents ont oublié la surveillance des activités de leurs enfants.
Uh-huh.
Et également, les parents ont oublié, ont masqué l'état de respect avec leurs enfants. Alors, pour ça que c'est ça d'abord le noyau de l'éducation.
Mm.
Pour que pour que l'éducation réussisse, il faut d'abord prendre du temps avec les enfants et surveiller ce que font les enfants.
Mm-hmm.
Alors, selon moi, il faut que l'État et les parents prennent ensemble la surveillance des enfants. Parce que le caractère a reproché un enfant. Les enfants s'enfuient. Par exemple, pour aller passer sa nuit, c'est un membre de la famille. Vous voyez? Ici, moi, je fais l'appel tout court à l'État ou aux agents de l'ordre, pour les autorités locales,
mm-hmm.
pour aider les parents, même arrêter et punir un enfant surpris avec la drogue.
Merci.
Parce que c'est aussi la source qui excite les gens à la violence.
Merci
alors,
beaucoup, Christian.
Alors, c'est ça que nous avons fait.
Mmh.
Les gosses le constat comme les bons côtés, les pharmaciens avaient quand même refusé l'achat des produits pharmaceutiques existants comme la Diogespan et la Valium. Alors, mais les gens ont changé la méthode. Ce que les gens font ici, c'est quoi? Ils prennent l'alcool mandro comme mon prédécesseur de Bruna. Ils achètent le whisky à sachet, à bouteille, même autre whisky, on l'appelle Sura. Et ils le mélangent avec ce mandro. Regardez maintenant le comportement de ces gens.
Voilà.
On est après de craindre les membres de famille pour appeler, par exemple, pour vous appeler, pour prendre des mandro avec eux. Vous n'allez pas prendre des mandros. C'est autre chose que vous allez prendre à travers ces mandros-là. C'est ça ma contribution.
Ok, merci Christian. Nous allons garder Dédonné qui est en ligne avec un dernier auditeur qui pourra venir pour la dernière partie de l'émission après le flash information. Nous donnons la parole juste pour 1 minute 30 à M. Pini Moukier. Vous avez suivi les uns et les autres. On est revenu longtemps sur la prévention, la sensibilisation, le rôle des parents, l'église. Les uns et les autres ont évoqué tout cela pour parvenir à aider quand même les travail aussi qu'on doit faire auprès de pharmacies pour parvenir à aider la jeunesse. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'influence des pouvoirs politiques, par exemple, quand il s'agit de commercialiser des substances, quelqu'un peut se couvrir, ou soit même les usines qui fabriquent des whisky en sachet, même ceux qui les importent ailleurs, est-ce qu'on n'a pas peur aussi de l'influence des politiques, des fois, dans une mesure d'interdiction de commercialisation, des interférences comme ça ne peuvent aussi pas, ne pas aider vraiment votre service et toute la société à lutter contre ces abus?
Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord revenir sur ce que la dame a dit sur l'éducation en famille.
Mm-hmm.
Vraiment, l'éducation en famille est très importante. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Un jeune homme qui sort, qui porte son pantalon, le pantalon est porté à mi-fesse. Mais les parents sont là. Mais ils doivent intervenir. Ils doivent intervenir, pardon, pour dire à l'enfant que ce n'est pas comme ça qu'on s'habille.
Mmh.
Nous voyons aussi des jeunes filles qui s'habillent, qui laissent les seins dehors. Moi, je crois que l'éducation doit commencer par la famille.
Mmh.
Et vraiment, la famille est très importante,
voilà,
pour l'éducation.
Parole aux auditeurs continue dans cette dernière partie consacrée bien sûr à deux auditeurs plus la conclusion. Nous parlons de période de fête, ce qu'ils font faire pour lutter contre la consommation de drogue et des substances enivrantes et surtout chez la jeunesse. Nous recevons M. Pini Moukier, le président, comme je le disais, du Comité national de lutte contre la drogue et les crimes. Dieudonné, vous êtes encore en ligne, vous nous appelez de Mbujimayi au Cassé-Orient. Vous êtes en ligne de données?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, merci pour la patience sur les antennes de Radio Capi. On vous écoute de données. Quelles sont vos propositions pour aider la jeunesse de Mbujimayi à éviter tous ces drames décrits dans cette émission depuis le début jusqu'à ce moment?
Merci. J'interviens pour vous dire que nos parents, nous sommes en train de jouer notre rôle. Mais moi, je retourne le grand dossier auprès des autorités publiques.
Mm-hmm.
Alors, vous savez que les autorités publiques qui sont à la tête de la réglementation de la vie de la nation, mm-hmm, puissent prendre la chose en main.
Mm-hmm.
Parce que je parle à pas à pas vous imaginez, nous avons tous les coins, pratiquement tous les marchés de la ville, il y a un coin où l'on vend la drogue, pratiquement. L'alcool, vous trouvez que là où il y a l'alcool, il y a différentes sortes de drogues là-bas.
Mm-hmm.
Ah, et au vu, au sud de tout le monde. Alors, c'est à l'autorité publique de prendre les choses en main pour essayer d'éradiquer la source de production et de l'alcool indigène et de la drogue comme la cannabis.
Mm.
Ah, on voit, il y a certaines entités où il y a des taxes perçues sur la fabrication d'alcool artisanal.
Mm-hmm.
Vous comprenez qu'on perçoit la taxe. Alors, moi, je ne comprends pas comment M. Moquet dit que il y a des lois qui prohibent la fabrication des alcools, alors qu'on perçoit la taxe dessus. C'est la contradiction.
Mmh. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on prenne des choses en main. Je vois un exemple en Gambie, par exemple, plus de 15% de la production de maïs entre dans la production de l'alcool indigène.
En Gambie, c'est ça?
Oui. Alors, vous pouvez vérifier, je dis parce que je connais la chose.
Mmh.
Plus de 15% de production de maïs. Vous comprenez ce que ça présente? Alors, il faudrait que l'autorité prenne les choses en main. Nous parlons de faisons notre travail avec nos enfants. Ce n'est pas tous les enfants qui vont se poser. Mais si on prend un marché public géré par l'État, qu'on trouve, qu'on vend officiellement ces histoires.
Voilà, merci.
Merci, merci. C'est ça ma contribution.
Merci Dieudonné. Vous êtes en Bougimaï au Café Oriental. Vous, vous dites que les parents, quand même, ils jouent les rôles, mais c'est aussi à l'autorité publique qui a la charge des réguliers, l'autorité de l'État, la vie de la société, à s'occuper de thème. Vous inquiétez quand même que. En Bougima et en Belgique, il y a plus de 15% de maïs, vous avez dit, est produit localement, s'en va à la fabrication de l'alcool et consomme même les taxes sur le petit usine, si on peut dire, qui fabrique l'alcool artisanal, et vous étonnez de cela. Nous allons terminer cette émission, je crois bien, avec les derniers auditeurs, c'est Philemon qui nous appelle de Mungwalu en province orientale. Philemon, vous êtes en ligne, bonjour. Philemon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la chance, comme nous avons toujours dit dans parole aux auditeurs, vous les derniers auditeurs, de pouvoir gérer et conclure au nom des auditeurs votre propos hein, sur la consommation de l'alcool, de la drogue pendant cette période. On vous écoute, Philemon.
Voilà, je suis très content de m'avoir accordé d'abord la parole.
Mm-hmm.
Mais il y a un problème surtout, il y a un grand problème. Le problème, vous autorisez le... les usines ou les industries du boisson. Ça n'est plus un problème. Il faudrait arrêter d'abord ces affaires-là. Mais disons que non, le corps a besoin de l'alcool. Effectivement, le corps a besoin de l'alcool, pas de la bière. Et il y a confusion qui est qu'on fait. C'est pourquoi il faut arrêter toutes ces affaires-là pour dire que la population soit un peu calme dans la fête. Quoi.
Voilà. Et vous pensez que la grande mesure serait d'agir en amont l'interdiction des usines qui fabriquent ces alcools, ça serait une bonne mesure plutôt qu'autoriser ces usines de fabriquer. Et là, on a un problème aussi de contrôle pour savoir quelle est la qualité, la quantité de ce qui est fabriqué dans ces usines.
Je vous fais comprendre, journaliste, ça, c'est montrer la qualité, la quantité. Ça, quand vous autorisez la quantité, c'est ça, donc vous autorisez ça automatiquement. Et vous dites non, parce que vous avez tout, quand il va goûter, encore il va goûter, toujours ça augmente, ça augmente, et ça va
voilà, comme on dit que l'appétit vient en mangeant. Merci, merci beaucoup Philemon de nous avoir appelé des Kondroma en province orientale. Vous êtes les derniers auditeurs hein, de cette émission de ce mercredi. Cela nous permet de remettre la parole à M. Pinimoke pour répondre à toutes les préoccupations des auditeurs et nous annoncer aussi peut-être d'autres mesures particulières que vous avez prises. Profiter pour conclure cette émission. Je crois que nous avons encore, je peux dire, 4 minutes qui nous séparent de la fin de l'émission. Vous avez la parole.
Merci, monsieur le journaliste. D'une façon générale, que ce soit pendant les fêtes ou pas, nous proposons quelques mécanismes pour que nous puissions, n'est-ce pas, aider nos enfants à aider ceux qui se droguent, qui consomment de la drogue, ainsi de suite. S'il y a moyen, par exemple, de créer l'emploi, la création d'emplois, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un ne fait rien, il tombe toujours dans le filet de la drogue. Construire, par exemple, des parcs d'attraction, les gens doivent se distraire. Très souvent, ici, chez nous, il n'y a pas de parc d'attraction. La seule distraction, c'est aller assister au match de football. Mais si on peut créer, on peut construire des parcs d'attraction, ça serait intéressant. Construire des salles de lecture dans des communes, par exemple. Les gens auront le temps de lire. Parce que très souvent, nous ne lisons pas. Nous, les Congolais, on n'aime pas beaucoup lire. Créer des centres de récupération pour former des jeunes gens désœuvrés hein, qui sont prêts à se prendre en charge. Si on crée des centres, on peut récupérer tous ces anciens toxicomanes-là. La fabrication et la consommation de produits toxiques. J'ai cité le Lotoco. S'il y a des gens qui payent des taxes pour cela, ils ne doivent plus payer des taxes. Et nous allons demander à l'autorité compétente s'il existe des documents qu'on annule ça. Parce que le Lotoco détruit la santé. Le Lotoco tue. Et nous devons voir l'autorité compétente pour qu'il puisse signer un arrêté et interdire ça à travers toute la République. Renforcer les patrouilles la journée et la nuit par la police. Quand la police patrouille, c'est les gens qui vont peut-être qui veulent commettre les infractions ont peur. C'est quand même très important le renforcement de la patrouille. Multiplier les postes de la police par exemple, si on vit dans la ville de Kinshasa, faut qu'il y ait plusieurs postes, n'est-ce pas, de police. Et à ce moment-là, vous voyez les drogués, les clowns, tout cela, on repère parce que la police est présente partout. Et nous avons demandé aussi que les hommes de Dieu puissent nous aider. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, un esprit saint dans un corps saint. On ne verra jamais un toxicomane qui entre quelque part pour prier, non. Quand mentalement on est malade et physiquement on est malade, on ne sait rien faire. Nous demandons aussi le respect de la mise en pratique des stratégies de l'ONU-BC, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. C'est le bureau de prévention, comme le CAPI nous a invité ici, à parler, réprimer ceux qui violent la loi sans complaisance. Quand on a arrêté quelqu'un, on ne doit pas avoir peur. Et puis, personne n'est au-dessus de la loi. Parce qu'il y a des fois, on arrête quelqu'un, il y a l'intervention, peut-être de l'autorité, on a peur. Non, c'est quand on respecte la loi qu'on pratique la tolérance zéro. Alors, il y a aussi le respect de la preuve des intoxications. Quand on a un enfant qui est dépendant, il devient vraiment toxicomane, il faut l'amener auprès du médecin pour qu'il soit traité. Et nous n'oublions pas ici l'intervention des parents. Le problème de la lutte contre la drogue, c'est un problème de tout le monde. Que vous soyez journaliste, que vous soyez moraliste, que vous soyez prêtre, que vous soyez politicien. Et la dernière demande, c'est surtout l'implication de l'autorité politique. Si l'autorité politique ne prend pas des choses en main, la lutte contre la drogue ne pourra pas marcher. Parce qu'on ne peut pas lutter sans moyens. Il faut donner le véhicule, il faut donner les moyens de communication, il faut donner les moyens financiers. Mais quand on ne réunit pas tous ces moyens, comment voulez-vous qu'on lutte efficacement
Merci beaucoup, Monsieur Pinimoke. C'est par ces propos que nous mettons un point final à cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du Comité national de lutte contre la drogue et les crimes. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous disons aussi merci aux auditeurs qui nous ont appelés et ceux-là qui avaient l'intention de le faire, mais malheureusement, à cause des aléas de la téléphonie, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir téléphoner. On leur dit tous merci et ça n'est fini pour parler aux auditeurs aujourd'hui. On se retrouve demain.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, sur les Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11h à 2h et mercredi de 10h sur les Kinshasa.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
On se retrouve demain jeudi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs consacré au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous savez que l'opération d'ouverture des comptes en faveur des écoles a commencé le week-end dernier ici à Kinshasa. Ce sont concernés les établissements publics ou conventionnés. L'objectif, d'après le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, est d'améliorer la gestion financière des établissements scolaires. Paroles aux auditeurs, reviens sur cela demain avec une question pour vous, auditeurs. Que pensez-vous de cette initiative? Soyez nombreux à réagir en vous inscrivant à l'adresse pa@radiookapi.net. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Tony Kumba Mamba, Alain Goy et Mimi Kimbu. Cette émission est sur www.radiookapi.net, mais elle peut aussi être réécoutée en FM à 20h, heure de Kinshasa, 21h à l'est et au centre du pays. Du Royaume de Belgique, je vous dis merci. Au revoir à tous. Thank you.